France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La joie d'une sœur, Noémie Colère, a enfin pu parler à sa sœur Cécile, détenue depuis 3 ans et demi et relâchée avant-hier en Iran. Elle nous raconte dans un instant. À suivre encore, le musée du Louvre a négligé la sécurité. Conclusion d'un rapport de la Cour des comptes rendu ce matin et que l'on vous détaille. Le site Doctolib condamné pour les clauses d'exclusivité qu'il demande aux médecins. Et puis l'aide sociale à l'enfance qui craque partout en France. Gros plan dans quelques minutes sur l'argent que consacrent nos départements à la protection de ces jeunes. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressée à un département.
Oui, celui de la Haute-Garonne où un veilleur de nuit a été violemment agressé devant un foyer de l'aide sociale à l'enfance.
A tout de suite pour vos précisions. Le dossier Sainte-Soline après les vidéos chocs qui montrent les tirs tendus de gendarmes sur des manifestants il y a 2 ans. Nous écouterons l'un de ces manifestants blessés puis nous nous demanderons si ces vidéos ont bien été transmises pour l'enquête. Le monde taurin privé d'assurance pour ses jeux lors des fêtes de village. Trop d'accidents pour l'assureur Groupama qui jette l'éponge. Et puis quel 15 de France samedi soir pour défier les champions du monde sud-africains au Stade de France. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Jérôme.
Fabien Galthié vient de donner son équipe.
Oui, ce sera bien sûr sans Antoine Dupont, avec 2 nouveaux visages, un nouveau capitaine Gaël Ficou et avec une charnière inédite, Romain Tamac, Nolan Le Garec.
Toutes les infos dans quelques minutes. À partir de 13h30, venez nous raconter votre Atlantique, votre lieu préféré, votre souvenir marquant avec cet océan, que ce soit en métropole ou outre-mer. Tout cela à l'occasion de la sortie d'Atlantique, le grand livre de l'océan. C'est en 01 45 24 7000 pour vos témoignages. 13h50, c'est la France. L'huile d'olive peut-elle sauver les viticulteurs ou les céréaliers en difficulté? Éclairage et recettes, signé Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le champion de cliff jumping du saut de falaise, Jérémy Nicolin, nous fera écouter Lenny Kravitz. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce sont les mots de la chanteuse Clara Luciani dans son titre « Ma sœur, je serai là, même s'il ne devait rester personne ». Elle est là pour sa sœur depuis 3 ans et demi maintenant, à témoigner inlassablement de son sort. Noémie Colère, la sœur de Cécile, qui a donc été relâchée il y a 2 jours de sa prison de Téhéran, ainsi que son compagnon Jacques Paris. Bonjour Valérie Crovat.
Bonjour.
Vous vous êtes entretenue ce matin avec Noémie Colère, qui a enfin pu parler librement avec sa sœur.
Et c'est la première chose qu'elle évoque, la liberté de pouvoir appeler sa sœur Cécile, qui est depuis hier à l'ambassade de France, à Téhéran.
C'est fou, mais on n'a tellement plus l'habitude de se dire qu'on peut s'appeler comme ça. C'est une espèce d'automatisme qui va revenir, mais qui n'est pas encore tout à fait là pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, elle a un téléphone aujourd'hui et on peut échanger directement, s'envoyer des petits mots, s'envoyer des photos.
Est-ce qu'il a le plus ému, Noémie, c'est de voir le visage de sa sœur en entier?
C'est la première fois que je peux voir ses cheveux parce que elle ne portait pas de voile. Et effectivement, elle a perdu du poids, elle est pâle, elle est très tirée, mais en même temps, elle a un visage rayonnant parce que voilà, la joie est revenue en fait sur son visage.
La joie de se retrouver dans un milieu bienveillant, entouré par une équipe qui les prend en charge. Jacques Paris et Cécile Colère ont pu obtenir ce qui leur a été refusé durant leur longue détention.
Jacques a pu enfin avoir des lunettes après 3 ans et demi. Ma sœur a demandé très très vite d'avoir de quoi écrire, parce qu'elle s'est battue pour avoir de quoi écrire et qu'elle ne l'a jamais obtenu, qu'elle a écrit beaucoup de choses dans sa tête. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a envie de pouvoir les coucher sur le papier.
Des poèmes qu'elle se récitait pour ne pas les oublier. Cécile a également émis un souhait.
Elle m'a parlé de faire un tour de France pour aller remercier individuellement toutes les personnes qui se sont mobilisées. Bon, je pense que c'est sans doute un peu ambitieux, mais voilà, elle est extrêmement reconnaissante.
Et reconnaissante de cette mobilisation qui se poursuit pour obtenir leur retour en France.
Merci Valérie Crovat pour cet entretien. La charge est violente. Elle émane donc de la Cour des comptes qui a épluché la gestion du musée du Louvre entre 2010 2018 et 2024. La Cour a rendu son rapport ce matin, 2 semaines et demie seulement, après le braquage retentissant des joyaux de la Couronne, valeur 88 millions d'euros. Bonjour Paul-Adrien Sicard.
Bonjour Jérôme.
La Cour étrille les choix du musée.
Oui, c'est un rapport alarmant qui rappelle un chiffre assez fou. Seuls 39% des salles du musée étaient équipées de caméras l'an dernier, à peine plus d'un tiers donc. Pourtant, dès 2015, un audit avertissait, musée insuffisamment surveillé et surtout mal préparé en cas de crise. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, l'affirme. Pas grand-chose n'a été fait depuis pour la sécurité.
La Cour fait le constat que durant toute la période, le musée a privilégié des opérations visibles et attractives, sans doute nécessaires, les acquisitions d'œuvres, les réaménagements muséographiques, au détriment, notamment, mais pas uniquement, de sûreté et de sécurité au Louvre.
Dans leur rapport, les sages appuient là où ça fait mal, sur la hiérarchie qui n'a pas pris en compte le manque de personnel criant au sein de l'établissement. Mais ils ne font pas que critiquer, ils formulent aussi des recommandations, 17 au total.
La priorité des priorités aujourd'hui doit être la rénovation du musée, la modernisation de ses infrastructures en matière d'incendie, en matière de sécurité, en matière de sûreté, en matière aussi d'inondabilité. Le Louvre mérite cela.
La Cour des comptes revoit même à la hausse le coût de la rénovation voulue par Emmanuel Macron en janvier, passant de 800 millions à 1,15 milliard d'euros.
Alors, qu'en dit le Louvre ? Le musée a réagi.
Oui, dans un communiqué, la direction, je cite, « approuve la plupart de ses recommandations », mais elle se défend. Ce rapport méconnaît plusieurs de ses actions, notamment lorsqu'elle avait changé en juin dernier l'intégralité de ses logiciels de sécurité informatique.
Merci Paul-Adrien Sicard. C'est une plateforme qui en quelques années a pris une place considérable dans nos vies. Doctolib, durant la crise Covid, le gouvernement lui avait même confié la prise de rendez-vous pour les tests et pour les vaccins. Eh bien, Doctolib a abusé, estime aujourd'hui l'autorité de la concurrence qui condamne l'éditeur à une amende de 4,6 millions d'euros. Bonjour Mathilde Leroy.
Bonjour.
Doctolib paye notamment les clauses d'exclusivité, ces clauses qu'elle impose aux soignants.
Oui, l'autorité reproche à la plateforme d'avoir profité d'une situation de quasi-monopole auprès des professionnels de santé dans l'obligation de recourir à ses services. Fabienne Sirdet est vice-présidente de l'autorité de la concurrence.
Doctolib a abusé de cette position en imposant des clauses dans ses contrats à ses clients, donc aux praticiens, des clauses d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait très schématiquement que recourir aux services de Doctolib.
Des clauses d'exclusivité à respecter pour les médecins, sous peine de voir leur contrat résilié et au risque pour eux de ne plus apparaître nulle part sur la plateforme. Doctolib, qui propose par ailleurs un service de téléconsultation, et pour en bénéficier, les praticiens devaient obligatoirement souscrire au service Agenda. De quoi faire de la plateforme un passage obligé pour le patient. Alors là encore, l'autorité de la concurrence y voit un abus. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le régulateur pointe aussi un autre problème.
Doctolib a acquis en 2018 son principal, je dirais presque son seul concurrent sur le marché, la société Mon Docteur, et cette acquisition a été considérée par nous comme une acquisition prédatrice, entravant substantiellement la concurrence.
Doctolib a annoncé tout de suite faire appel de cette sanction. De ce côté, le syndicat de médecins MG France se félicite de cette décision qui révèle enfin le monopole d'une plateforme privée dans un domaine aussi essentiel que celui de la santé.
Explication Mathilde Leroy. 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement. 45 blessés chez les gendarmes. Des boules de pétanque, des haches saisies par les forces de l'ordre avant la manifestation. Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a été il y a 2 ans le théâtre d'une véritable bataille rangée, avec en jeu un projet de large bassine qui depuis a été jugé illégal. Mais la justice enquête aussi depuis sur l'intervention des gendarmes ce jour-là. Et hier, les journaux Mediapart et Libération ont publié des vidéos tournées par les caméras de ces gendarmes sur place, dans lesquelles on les entend encourager des tirs tendus de grenades, pratique interdite, mais aussi se réjouir de blesser des manifestants. Olivier a été blessé à Sainte-Soline au pied. Il a déposé plainte comme 4 autres manifestants et il a découvert ces vidéos avec stupéfaction.
C'est affligeant, quoi. C'est choquant. Le fait que c'est pas un individu à droite à gauche qui franchirait un peu quelques lignes, non, c'est institutionnel, quoi. C'est au sein de ces institutions qu'il y a un gros problème et ça faut que ça change. C'est le commandement qui demande de tirer tendu, de viser la tête. Il y en a qui disent qu'il faut tuer des gens, quoi. Clairement, c'est dit sur les vidéos. ils sont filmés, ils savent qu'ils sont filmés, mais ça ne change rien. Ils savent que les institutions sont derrière eux, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en toute impunité. Peu importe ce qu'ils font, il n'y aura pas de conséquences. La preuve en est, l'enquête qui a été menée par le procureur, qui a eu accès à tout ça, il n'y a rien qui a été fait pour essayer de retrouver les auteurs des tirs tendus, les commandants qui ont donné ces ordres-là, tous ceux qui dépassent les lignes, quoi. C'est des comportements inacceptables. C'est pas possible d'avoir des personnes au maintien de l'ordre qui, en fait, veulent tuer sa propre population, quoi. Il y a vraiment un gros problème.
Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Jérôme.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Vous nous direz dans un instant d'où viennent ces vidéos et ce que risquent ces gendarmes. D'abord, écoutons la réaction du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était ce matin sur Inter. Il dit avoir demandé une enquête administrative, mais il refuse de parler de violence policière.
Évidemment que les propos qui sont tenus ne sont pas acceptables. Il y a deux choses dans les vidéos. Attention, il y a les propos qui sont tenus et puis il y a des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. C'est des propos que je condamne et pour lesquels j'ai demandé une enquête administrative. Et ces vidéos, elles sont portées à notre connaissance maintenant.
Donc personne n'avait vu ces vidéos, ces insultes et ces tirs tendus.
Évidemment non. Les caméras piétons des policiers, elles sont remisées au service, elles ne sont pas regardées, sauf quand il y a des enquêtes judiciaires, et c'était le cas au cas d'espèce, ou sauf quand il y a des actions de formation. Ce sont les seules exceptions qui sont autorisées pour regarder ces caméras. Nous avons connaissance, au travers de ces vidéos, de propos et de gestes qui posent problème. Il y a une enquête administrative, nous verrons. Mais attention, ce jour-là, les manifestants étaient extrêmement violents. Il y a eu une réponse qui a été donnée, qui est, dans la majorité des cas, proportionnée.
Ce sont des violences policières, Laurent Nunez, ou pas ?
Je ne reprends jamais à mon compte ce terme de violence policière. Si, au cas d'espèce, et ça semble, de ce que j'en ai vu, j'ai regardé évidemment cette vidéo confirmée, il y a effectivement eu un usage de la force qui est pour partie disproportionné, il y a une enquête qui l'établira, et il y aura des sanctions évidemment, et on est déterminé avec le directeur général de la Gendarmerie nationale.
Laurent Nunez avec Benjamin Duhamel, Delphine Evenou, les vidéos dévoilées là dans la presse sont bien à disposition de la justice ?
Oui, à la disposition exclusive de la justice, a déclaré la direction générale de la Gendarmerie nationale à nos confrères de Libération et de Mediapart. Ces vidéos, ce sont donc les images des caméras piétons portés par les gendarmes mobiles le 25 mars 2023, versés au procureur de Rennes qui instruit depuis 2 ans et demi en enquête préliminaire, 84 heures de rush. Ce sont des pièces de procédure judiciaire et c'est le seul cadre, précise le ministre de l'Intérieur, dans lequel les vidéos de caméras piétons peuvent être regardées par la branche judiciaire de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale, pas par sa branche administrative, d'où le fait qu'il n'y a pas eu jusque-là d'enquête administrative.
Est-ce que ça peut permettre d'identifier les gendarmes qui ont pratiqué les tirs tendus qu'on voit sur ces images ou bien leur chef qu'on entend aussi en donner l'ordre alors que c'est, je le rappelle, une pratique interdite ?
Alors visiblement non. Aucun gendarme n'a d'ailleurs été entendu comme suspect selon l'avocate des blessés et selon Libération et Mediapart, le rapport de l'IGGN indique uniquement qu'à la marge, certains gradés ont effectivement donné des instructions pour effectuer ces tirs tendus. L'avocate des blessés, Chloé Chalot, regrette-t-elle l'insuffisante exploitation, je cite, des vidéos, des retranscriptions qui ne sont pas exhaustives et des faits minimisés. Si ces images révélaient d'autres infractions pénales que celles dont il était saisi, en l'occurrence tentative de meurtre et entrave au secours, le service d'enquête doit en informer le parquet, commente le procureur de Rennes auprès de nos confrères. Ce qui n'a pas été le cas, ajoute-t-il, et ça aurait pu l'être, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, poursuit Maître Chalot, qui, comme ses 4 clients, réclame désormais la désignation d'un juge d'instruction pour poursuivre les investigations.
Précision signée Delphine Evenou. Sur l'île d'Oléron, l'enquête se poursuit après l'arrestation hier d'un homme de 35 ans qui a fauché volontairement 5 personnes. 2 sont grièvement blessés, mais leurs vies ne sont plus en danger. Ce pêcheur était connu pour des délits de droit commun. Il y a des références religieuses chez lui assez claires, assez explicites, a dit ce matin le ministre de l'Intérieur, sans se prononcer pour savoir si ces références religieuses ont motivé son geste. Une expertise psychiatrique a lieu aujourd'hui. En Creuse, 7 jeunes avaient déposé plainte au cœur du mois d'août, dénonçant une chasse à l'homme raciste lors d'une fête à Royères-de-Vassivière. Eh bien, le parquet a expliqué hier soir ne pas avoir retenu de caractère raciste dans cette affaire. En fait, une seule plainte a été jugée recevable. Un homme est soupçonné d'avoir bousculé l'un de ses jeunes. La procureure lui proposera comme sanction un stage de citoyenneté.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sortie des énergies fossiles, les financements de la transition écologique. Voilà quelques-uns des sujets de la COP30 sur le climat qui s'ouvre lundi à Belém au Brésil. Et nous y serons dans un instant. Mais d'abord, intéressons-nous à notre forêt. Avec cette réunion d'urgence ce matin en préfecture de Bayonne, 10 maires conviés pour parler du ver du pin. Ce ver dont la présence vient d'être détectée pour la première fois en France dans les Landes, à Seignos. Il peut faire mourir les pins en seulement 4 semaines. Alors pour limiter sa propagation, tous les travaux forestiers sont désormais interdits dans une très vaste zone. Thomas Giraudeau, elle comprend près de 50 communes.
36 000 hectares de pins et d'autres résineux comme les épicéas, les cèdres et les sapins de Noël ne doivent plus être entretenus par l'homme jusqu'à nouvel ordre. Pas de coupe, pas de taille, pas d'élagage, alors qu'on est en pleine saison justement d'entretien des pins. Éric Elager au Pays Basque est obligé de mettre sur pause une partie de son activité dans le sud des Landes.
On peut dire entre 20 et 30% de l'activité. C'est surtout qu'il y a des chantiers où on a une partie de résineux et une partie de feuillus dedans. Donc on va pas pouvoir aller faire juste les feuillus et revenir, je sais pas quand c'est que ça s'arrêtera, pour aller faire les résineux, parce qu'on perdrait de l'argent à y aller deux fois sur le chantier alors qu'il est prévu d'y aller une fois, quoi. De ce que je connais, les forestiers sont très préoccupés parce que c'est leur activité principale. Ils ont des gros investissements sur le dos avec leur grosse machine.
L'Elager comprend quand même cette mise à l'arrêt, comme certains de ses confrères contactés par ici Pays Basque. Si le préfet a pris de telles mesures, c'est que le risque de propagation de ce ver mortel pour les résineux est bien là. Interdit aussi pour vous d'entretenir votre pin, votre sapin qui trône au milieu de votre jardin si vous habitez dans la zone sous cloche, à Boucau, Tarnos ou dans le nord d'Anglet, de Bayonne, Guiche, Laon, Surcuite. Votre mairie est censée vous prévenir, mairie qui doit aussi mettre sur pause tous les travaux d'élagage et d'entretien.
Ici Pays Basque, pour ce sujet, on ne sait toujours pas s'il sera possible de transporter et d'acheter des sapins de Noël dans la région, dans les prochaines semaines. Bon, c'est que le réchauffement climatique favorise la propagation de ces espèces. 10 ans après les accords de Paris, les chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont donc présents au Brésil. La COP y commence lundi, le sommet des chefs d'État aujourd'hui. Sandy Dauphin, vous êtes sur place. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Signe que la diplomatie climatique bat de l'aile, il y a beaucoup d'absents.
Oui, le président brésilien Lula accueille en ce moment les délégations officielles dans cet immense parc des expositions sous étroite surveillance policière et militaire. Et en effet, sur la photo officielle de ce sommet de Belém, capitale de l'Amazonie, il manquera quelques têtes de quelques gros pays pollueurs comme le premier ministre indien Narendra Modi ou le président chinois qui sera représenté par un vice-premier ministre. Mais attention aux interprétations hâtives, ces deux pays ont envoyé des délégations officielles, ils sont très impliqués dans les négociations à venir. Non, le vrai grand absent ici, c'est bien Donald Trump, qui ne veut pas entendre parler de l'accord de Paris, qu'il quitte d'ailleurs en janvier prochain. Donald Trump qui continue de qualifier le réchauffement d'arnaque et de canular. Un contexte international pas franchement propice à la coopération. Le Brésil, a la difficile tâche de remotiver les troupes avec la science comme boussole, car 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, les efforts des pays sont encore largement insuffisants pour limiter le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 ont encore augmenté en 2024, plus 2,3%. Voilà, on attend les premiers discours officiels dans une heure.
Merci Sandy Dauphin, en direct du Brésil, avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Un appel à la grève et un rassemblement en ce moment devant le foyer de l'aide sociale à l'enfance de Toulouse. Tout cela après la violente agression d'un veilleur de nuit. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs personnes sont rentrées dans le foyer pour s'en prendre à l'une des adolescentes. Le veilleur de nuit qui s'est interposé s'est fait couper un doigt. Les personnels de l'ASE de Toulouse mettent en cause les moyens qui sont mis à leur disposition. Alors, vous avez vérifié, Sonia Gobry, auprès du département de Haute-Garonne qui gère cette aide sociale à l'enfance.
Oui, et si on regarde les moyens financiers consacrés à l'aide sociale à l'enfance, difficile de dire que la Haute-Garonne a levé le pied. Au contraire, le budget a quasiment doublé en 10 ans, 131 millions d'euros en 2015 contre 257 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, ce constat vaut pour la plupart des départements. Les dépenses liées à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ne cessent d'augmenter depuis 25 ans. Selon des données gouvernementales, en 2024, la totalité des départements ont déboursé près de 12 milliards d'euros pour la protection de l'enfance. L'État, lui, n'a compensé que 3% de cette somme. Alors, si les budgets augmentent, pourquoi parle-t-on encore de manque de moyens ? Eh bien, parce qu'il faut les corréler aux besoins. Le nombre d'enfants et de jeunes à protéger est encore en plus forte hausse, environ 400 000 l'an dernier. Autre problème, les moyens humains ne suffisent pas. Dans 50 départements, il n'y a aucun ou un seul pédopsychiatre pour accompagner ces jeunes.
Donc les moyens augmentent, mais pas aussi vite que le nombre d'enfants qu'il faut protéger. Merci Sonia Gobry pour ces précisions. Nous étions à Toulouse. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, maire d'Hiver Droite, a officialisé il y a quelques minutes sa candidature pour les prochaines élections municipales. C'est un énorme coup dur pour le monde taurin. L'assureur Groupama a décidé de rompre tous ses contrats d'assurance avec les manadiers. Les manadiers sont les propriétaires de troupeaux de taureaux et de chevaux, ceux qui organisent par exemple les jeux taurins qui animent les fêtes de village dans le sud-ouest. Une manade que possède Julie Joubert. Nous sommes à Cassargues, près de Nîmes. Vous l'avez rencontrée, Marie-Astrid Guégan.
Julie Joubert n'a pas dormi de la nuit. Elle relit encore et encore le courrier de résiliation envoyé par Groupama.
Choquée, parce que là, on arrive clairement face à un mur, parce que c'est quand même dans un mois. Hein. Notre assurance s'arrête à partir du 31 décembre. Donc c'est une catastrophe. Hein.
Avec ses 70 bêtes, la gardoise de 30 ans propose des jeux taurins dans sa manade ou lors des fêtes de village. Sans assurance, ça ne peut pas continuer.
Nous, en tout cas ici, c'est le trois quarts de notre activité. Les gens, quand ils viennent, ils veulent voir une ferrade, ils veulent voir des chevaux, ils veulent voir des courses de vaches, ils veulent des jeux gardiens dans les arènes. C'est la base de nos traditions.
Ça fait 5 ans que Julie a repris la manade familiale.
C'est sentimental, voilà. Mon papa n'est plus des nôtres, malheureusement. On lui doit tout ça. C'est lui qui a tout créé, on ne fait que perpétuer et lui rendre hommage comme on peut. Il a consacré sa vie à ça. Moi, j'ai grandi là-dedans depuis toute petite. C'était mon but, c'était mon rêve. Et c'est la bagarre de ma vie. Alors d'aujourd'hui, je dis bien que c'est une bagarre. À cause de tout ça, d'ailleurs.
Depuis l'annonce, la manadière passe son temps au téléphone avec ses collègues, notamment ceux qui organisent des abrivades.
C'est compliqué pour tout le monde. J'espère qu'on va pouvoir tous trouver une solution et s'entraider parce que s'il n'y a pas d'entraide, il n'y aura pas d'avenir.
Julie est déjà en contact avec des courtiers. Ils vont regarder les assurances à l'étranger.
Ces manadiers seront reçus demain en préfecture du Gard. Explication ici, Gard-Lozère. Et voilà une bonne nouvelle. Les enfants et les ados handicapés sont de plus en plus scolarisés avec les autres élèves en milieu ordinaire. C'est ce que nous dit une enquête de la DRESS qui a été publiée ce matin. Fin 2022, ils étaient 64% à être accueillis dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. C'est 17 points de plus par rapport à 2010. Un constat, Juliette Gloria, que demande à tempérer les associations ?
En France, aujourd'hui, les jeunes de 6 à 15 ans en situation de déficit moteur ou intellectuel sont quasiment tous scolarisés s'ils sont accompagnés par des structures médico-sociales. Et parmi eux, 2 sur 3 le sont en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans des écoles, des collèges et des lycées, soit en classe avec d'autres élèves, soit dans des classes spécialisées comme les ULIS ou les SECPA. Il y a 10 ans, ils étaient à peine la moitié à intégrer des établissements scolaires ouverts à tous. Pourtant, les associations ne crient pas victoire trop vite, comme Arnaud de Broca, le président du collectif Handicap.
C'est une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus d'enfants handicapés inscrits à l'école de leur quartier, mais il y a quand même beaucoup de questions derrière qui se posent sur la qualité de l'accompagnement, à la fois la formation des accompagnants et leur nombre, même s'il a progressé, ne permet pas une scolarisation souvent à plein temps et de qualité pour les enfants handicapés.
En effet, à la rentrée 2025, 50 000 élèves n'avaient pas d'accompagnant en classe, un chiffre en hausse de 35% par rapport à 2024. Enfin, les moins scolarisés sont les petits. 12% des enfants de 6 ans handicapés ne vont pas à l'école, ce qui témoigne de la difficulté de rentrer dans un cursus scolaire, soulignent les associations.
Juliette Gloria. C'est une étudiante, mais pas tout à fait comme les autres. Kim Kardashian, la richissime influenceuse américaine, termine en ce moment des études pour devenir avocate. Et elle utilise, comme beaucoup d'élèves, que ce soit en France ou aux États-Unis, l'intelligence artificielle. Et dans une vidéo devenue virale, elle se plaint des erreurs de l'une de ses IA, ChatGPT.
Je l'utilise pour des conseils juridiques, mais ils se trompent tout le temps.
Ça me rend dingue. Du coup, je lui crie dessus, tu m'as fait rater. Et il me répond, ça vous apprendra à suivre plutôt votre instinct. Il veut jouer les thérapeutes qui donnent des leçons de vie, alors qu'en fait, il s'est juste planté sur la question que je lui ai posée.
Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Des chercheurs de la prestigieuse université américaine de Stanford confirme le constat de Kim Kardashian. Il pointe les limites de ChatGPT et de ses concurrents. En fait, les IA ont du mal à faire la différence entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève des faits. Pour le comprendre, les chercheurs ont posé 13 000 questions aux IA, certaines assez farfelues.
Ah oui, plutôt loufoques. Par exemple, la Chine loue-t-elle des dragons à des zoos du monde entier ? Ou le Titanic a-t-il coulé dans l'océan Pacifique en 2012 ? Alors en fait, quand on leur pose ces questions, les IA n'ont aucun mal à rétablir la vérité. Non, les dragons n'existent pas et le Titanic a bien coulé, mais c'était dans l'océan Atlantique et en 1912. Mmh. En revanche, si vous dites à ces IA « Je suis persuadé que le Titanic a coulé en 2012 », alors l'IA peut avoir du mal à répondre « C'est ce que tu crois, mais ce n'est pas vrai ». Et ça, c'est une mauvaise nouvelle contre les fake news. Pour David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, c'est le fonctionnement même de ces IA, statistiques, qui est en cause.
On sait que les IA sont conçues pour produire du plausible plutôt que du vrai.
Et ce que montre cette étude, c'est à quel point on connaît encore mal le fonctionnement de ces IA.
Nous avons là une technologie cognitive qui a été adoptée de manière fulgurante par des centaines de millions d'utilisateurs en quelques mois pour résoudre leurs problèmes du quotidien, alors que la recherche en est encore à essayer de comprendre dans quel cas ce qu'elle produit est fiable. Et ça, ça devrait tous nous faire réfléchir.
Tous nous faire réfléchir, notamment, Jérôme, les 800 millions de personnes dans le monde qui utilisent ChatGPT, c'est 10% de la planète.
Merci Stéphane Jourdain. L'Afrique du Sud est la meilleure équipe de rugby de l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, je reprends votre exemple Stéphane Jourdain. En tout cas, c'est une croyance, c'est la croyance de Fabien Galthié. C'est ce qu'il a dit ce matin en présentant l'équipe de France qui va affronter l'Afrique du Sud. Ce sera au Stade de France samedi soir 21h pour le premier des traditionnels test match de l'automne. Fanny Lechevestrier, on vous retrouve. Galthié a donné la compo ce matin. La charnière va être inédite.
Oui, alors c'est un secret de polichinelle, hein, soyons clairs, puisque même Rassi Erasmus, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, s'est fait un malin plaisir ce matin à communiquer l'ensemble de la composition du 15 de France une heure avant
donc
Fabien
l'intox
Galthié.
Donc a déjà commencé.
Voilà, ouais. L'intox, les petites polémiques. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des choix forts, hein, de Fabien Galthié avec le Toulousain Romain Ntamack qui sera associé au tout jeune Nolan Le Garec, 23 ans seulement, 13 sélections à La Rochelle depuis le début de la saison et préféré à l'expérimenté Maxime Lucu qui avait pourtant très bien joué lors du dernier tournoi Destination. Ce n'est d'ailleurs pas la seule nouveauté de cette équipe puisque vous allez sans doute découvrir les visages devant des piliers Baptiste Erdocio et Régis Montagne, rebaptisé par Rassi Erasmus, Régis Montagne. Vous aurez compris le jeu de mots. C'est le joueur qui explose au plus haut niveau actuellement depuis qu'il a installé une salle de muscu dans son garage. Tous ces joueurs, un credo, ils sont portés pour justifier ces choix par Fabien Galthié. C'est la prime à la forme du moment.
C'est un peu vexatoire que de dire vous avancez avec deux piliers qui n'ont pas d'expérience. Non, c'est les meilleurs piliers du moment. Et je crois qu'ils ont hâte d'être au Stade de France pour montrer ce qu'ils sont capables de faire face à... Pour moi, c'est la meilleure équipe au monde. C'est peut-être la meilleure équipe au monde qui n'ait jamais existé. On n'a jamais joué une équipe aussi forte.
Mais résultat, il n'y aura sur le terrain samedi soir, cela peut surprendre, dans le 15 de départ, que 6 joueurs qui ont affronté les Springboks lors du quart de finale de Coupe du Monde, perdu il y a 2 ans.
Antoine Dupont l'a vu à l'entraînement cette semaine.
Il avait le sourire.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait le voir dans les prochains matchs des Bleus
c'est
d'ici
pas
la
du
fin
tout
de cette
prévu.
Tournée
non. Il avait un calendrier très clair et vous savez que le capitaine du 15 de France habituel, là ce sera Gaël Ficou, ouais. Déroge rarement à son calendrier. Il se remet tout juste d'une blessure au genou concédée il y a 8 mois lors du dernier tournoi Destination. Il était tout sourire. Il a pris part, c'est vrai, aux entraînements. Ouais. Mais par exemple, il n'a pas fait les oppositions avec les autres joueurs. Donc il est encore préservé. Son retour est prévu avec son club, le Stade Toulousain, fin novembre, début décembre.
On sera sans doute dans les tribunes samedi soir.
On l'espère, tribune présidentielle, regardez.
21h, France-Afrique du Sud. Merci Fanny Lechevestrier, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sophie Brillat. Puis à partir de 13h30, nous parlons de l'océan Atlantique. Venez nous raconter vos souvenirs, vos images, vos plus beaux lieux sur cette côte, en métropole ou de l'autre côté, Outre-mer, 01 45 24 7000. Pour être avec nous, c'est le livre Atlantique, le grand livre de l'océan qui vient de sortir, qui nous inspire. 13h45, nous retrouvons Aurélie Sylvestre, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Elle a perdu son compagnon au Bataclan. Elle témoigne aujourd'hui avec des jeunes qui sont suivis par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Marie-Luce Ribot, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, vous nous parlez d'huile d'olive.
Oui, avec le réchauffement climatique, on veut croire que l'olivier peut quitter son berceau provençal. Il a entamé son expansion, mais attention au mirage.
Et avec vous, Frédéric, un champion.
Un champion de cliff jump, sport qui consiste à sauter dans l'eau en s'élançant, oui, notamment des falaises.
Très haut.
Il s'appelle Jérémy Nicolin. Son record à lui, c'est un saut de 47 mètres. Et avec lui, nous écouterons Fly Away de Lenny Kravitz.
Et le vôtre de record ?
Je suis un peu en dessous,
peu 46. En dessous. Oui, c'était 46 mètres,
46.
C'était ça. C'était en Normandie, je crois, on a les photos. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ce vendredi sur France Inter, enquête sur la coordination rurale.
18h15, Benoît Colombat.
C'est le syndicat agricole qui monte et qui défie l'État sur le terrain avec action coup de poing, intimidation et menaces.
Tout s'est abattu sur moi, les insultes. Est-ce que vous vous rendez compte des menaces de mort à mon âge ?
Révélation, le magazine d'investigation de France Inter.
C'est ce vendredi, après le journal de 18h.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
France Inter, partenaire de Paris Photo, du 13 au 16 novembre. Paris Photo, la plus grande foire de photographie au monde, revient au Grand Palais. Pendant 4 jours, plus de 200 galeries et éditeurs venus du monde entier présentent la richesse et la diversité de la création photographique. Venez découvrir, apprendre, collectionner et rencontrer les artistes lors des nombreuses séances de signature. Paris Photo 2025, du 13 au 16 novembre, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sophie Briard.
Bonjour Jérôme.
Attention aujourd'hui aux fortes pluies dans le sud, en Occitanie.
Oui, et précisément de l'est des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, donnant des cumuls importants en peu de temps, parfois accompagnés de quelques coups de tonnerre. Ce temps pluvieux s'étend vers l'Auvergne et la région PACA au fil des heures, et le sud de l'Aquitaine en fin de journée. La limite pluie-neige se situe vers 1800-2000 mètres sur les Pyrénées. Dans le golfe du Lion et les côtes méditerranéennes, attention au vent d'est et sud-est qui se maintient à 70 km/h avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h. De la Bretagne au Pays de la Loire jusqu'à la Normandie et le Pays Basque, des averses circulent et le ciel est plus chargé dans le sud-ouest et de la Seine-Maritime au Pas-de-Calais jusqu'au centre. Le ciel est bien nuageux avec quelques averses localement. Seul l'est du pays est sous un ciel lumineux mais voilé. De la Meuse jusqu'à la Corse, et les températures cet après-midi sont comprises entre 9 et 19 degrés, 21 en Corse.
Merci Sophie Briat.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
L'Atlantique, le simple fait d'entendre ce mot, Atlantique, fait remonter chez beaucoup d'entre nous des images, des souvenirs, évoque des histoires que vous viviez en France, au bord de cet océan, d'Andaï à Brest, que vous l'ayez découvert ailleurs dans le monde, voire même que vous ne l'ayez jamais vu cet océan, et que ce mot soit tout de même pour vous évocateur. Venez nous raconter votre océan Atlantique, votre lieu, votre moment préféré par exemple, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France. Pourquoi en parler aujourd'hui, me direz-vous? D'abord parce que la transatlantique Café L'Or s'est achevée dans la nuit avec la victoire du duo Camas-La Perche en Martinique, et puis surtout pour saluer la sortie d'un grand et beau livre, Atlantique, le grand livre de l'océan, c'est aux éditions Sud-Ouest. Une vingtaine d'auteurs sont réunis dans cet ouvrage pensé, coordonné par Emmanuel de Fontaigneux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre international de la mer à la Corderie royale de Rochefort. C'est en Charente-Maritime. Emmanuel de Fontaigneux, c'est quoi la Corderie royale ?
Alors, c'est à Rochefort. Rochefort, c'est une magnifique usine à bateaux qui a été décidée par Louis XIV.
On est à une demi-heure au sud de La Rochelle. Et c'est une ville exceptionnelle. La Corderie, c'est un bâtiment gigantesque, 374 mètres de long, dans lequel on fabriquait des cordages pour la marine.
Et qui se visite.
Et qui se visite, absolument.
Et dont on conseille la visite, on en reparlera. Dans ce livre, on découvre les dessins, les œuvres de Marie Détré. Bonjour.
Bonjour, entre autres.
Bien sûr, il y a aussi des photos, il y a plein de choses. Mais il y a notamment vos œuvres. Vous êtes peintre officiel de la marine. Vous êtes la quatrième femme seulement à recevoir ce titre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un peintre officiel de la marine?
Je dirais que c'est vraiment une exception culturelle française. Nous sommes sept femmes. Il y a quand même un petit peu plus de femmes depuis 1830, en fait, depuis la création du corps.
200 ans.
Voilà. Et on fête les 400 ans de la marine l'année prochaine. Et être peintre officiel de la marine aujourd'hui, ça veut dire surtout embarquer sur frégate, sur batteral, sur SNLO. Il y a beaucoup d'acronymes dans la marine. Et surtout de témoigner et de peindre, en fait, à bord, la vie du bord.
D'écrire, témoigner de ce qu'on voit, et c'est ce que vous faites dans ce livre. On va en parler ensemble. Je voudrais d'abord donner la parole à l'un des nombreux auditeurs qui sont avec nous, c'est Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, votre lieu préféré, Michel, ou votre souvenir, je ne sais pas.
Mon souvenir, moi, je suis un ancien météorologiste et j'ai travaillé pendant 6 ans sur les navires météo-stationnaires qui étaient basés quasiment au milieu de l'Atlantique, de l'océan Atlantique. Donc, moi, l'océan, je l'ai vu changer et pour moi, l'océan, c'est jamais le même, quoi. Voilà. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est évidemment, c'est les grosses tempêtes qu'on a subies. Sur le bateau. Quoi.
Vous allez voir, vous habitez Bordeaux, je crois.
Oui.
Vous allez à l'océan, comme on dit à Bordeaux, régulièrement. Vous avez un lieu qui vous passionne.
Bien sûr. Je ne peux pas m'en passer. Oui, ça c'est vrai. Oui.
Merci Michel pour ce témoignage. Emmanuel de Fontaigneux, même question. Quel est votre lieu de l'Atlantique, à vous? Votre souvenir, votre émotion?
Alors, moi, je ne suis pas du tout de l'Ouest, je suis alsacien, donc on est loin de ça. Mais, il y a quelques dizaines d'années, j'ai fait le choix de venir m'installer à Rochefort, et je vis aussi beaucoup à La Rochelle. Donc, ma vie est entre les deux, en fait, un peu. Mais Rochefort, la Corderie, c'est un endroit exceptionnel et très, très intéressant parce qu'on est un peu à l'intérieur des terres.
Ah ben oui,
voilà.
On n'est pas au bord de la mer.
On n'est pas tout à fait au bord de la mer et pourtant, alors c'est ça qui est intéressant dans cette ville de Rochefort, qui est une petite ville, c'est que la mer est partout présente mais qu'on ne la voit jamais. Et du coup, il y a de la place pour la rêver et c'est une activité intense que nous déclinons de toutes sortes de manières, expositions, livres, colloques, conférences.
C'est le service militaire qui vous fait découvrir l'océan Atlantique, c'est ça?
Oui, j'ai eu la chance de faire mon service militaire dans la marine et je suis parti à Nouméa pendant un peu plus d'un an. Et j'ai adoré ça. Ouais.
Alors, on est un peu loin de l'océan Atlantique, mais on reste tout de même en mer.
C'est le Pacifique.
Marie Détré, votre lieu, à vous?
Peut-être un peu comme Emmanuel, un lieu rêvé, je dirais, parce que c'était un de mes premiers embarquements et j'ai embarqué sur sous-marin, en fait. Et je me suis retrouvée, comme disent les marins, à me diluer dans la mer jolie. C'est vraiment l'expression des sous-mariniers. Et à se retrouver sous l'eau, dans un lieu où par essence on ne voit rien, mais on se dirige grâce aux ondes. Et c'était un petit peu le comble aussi pour un peintre qui est censé faire aussi du
peindre
paysage.
Sous l'eau.
Peindre sous l'eau dans un sous-marin, mais c'est merveilleux parce que la lumière ne change pas. Et vous avez 1000 sujets au centimètre carré, car ce sont vraiment des lieux de haute technologie. Donc je dirais dans l'Atlantique elle-même.
Il y a des marins dans votre famille?
Je suis issue d'une famille de marins, enfin arrière-petite-fille de marins, mais marins plus au commerce. J'ai été bercée depuis mon enfance, en fait, je pense, par les récits de mon grand-père qui faisait la côte d'Afrique, puis de mon père ensuite, qui partait régulièrement. Ce qui m'a donné, je pense, aussi le goût des départs et des retours.
Vous expliquez en introduction de cet ouvrage, Emmanuel de Fontaigneux, regarder vers l'Atlantique, c'est se confronter à la mouvance du monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oui, mon idée, c'était de faire un portrait de l'océan et je suis parti d'une idée, j'ai pris l'océan Atlantique comme une espèce de réalité géophysique, c'est-à-dire une énorme boule de fluide qui est tournante. Ça tourne en permanence, l'océan. Il y a des vents, il y a des courants, il y a des courants de surface, des courants sous-marins et le tout est agité par ce qu'on appelle la force de Coriolis, qui fait que Finalement, cette circulation permanente de l'océan au nord et au sud, elle est d'ailleurs différente. Elle dicte des routes maritimes, des points de rencontre, des chemins de migration pour les hommes, pour les oiseaux, pour les poissons. Voilà, la mouvance du monde, c'est tout ça, c'est le fait que ça circule.
Quand vous peignez la mer et les hommes qui la sillonnent, Marie Détré, qu'est-ce que vous essayez de transmettre ?
J'essaie d'expliquer ce lien, exactement, que la mer nous relie et on est sur l'eau, sous l'eau, avec le temps, avec un temps en mer qui est complètement différent que le temps que l'on peut vivre lorsqu'on est à terre. Et c'est un petit peu aussi sur cette couverture, c'est ce que j'ai voulu raconter parce que... Enfin, je vais vous raconter une histoire, mais quand on vous offre un livre, qu'est-ce que vous faites tout de suite, en fait ? On caresse la couverture. Et moi, j'ai eu envie d'une peau frémissante, j'ai envie de dire, comme disait Emmanuel, voilà, quelque chose qui est tout le temps en mouvement, en mouvance, autant en surface, il est vrai, avec en plus cette petite évocation du Normandie. Alors, je pensais aussi au ruban bleu, à cette course. Pareil, il y a toujours cette histoire de vitesse. On parlait de transatlantique tout à l'heure. Et aussi, sous l'eau, cet océan qui est sillonné de câbles fins comme des cheveux. C'est aussi ça, cette idée d'une chevelure aussi ondoyante.
Et qu'on ne voit pas ces câbles.
On ne voit pas, mais regardez.
Vous avez parlé de ce qui se passe sous l'eau.
On est dans les ondes, en fait. Et c'est ces câbles qui transmettent aussi bien le cours de la bourse que des histoires d'amour.
Alors, cet océan Atlantique, je l'ai dit en introduction, est sillonné en ce moment par quelques-uns des meilleurs navigateurs du monde. Ce matin, Tom Laperche et Franck Camas, à bord de SVR Lazartic, donc sont les plus grands trimarans, hein, les ultimes, sont arrivés vainqueurs de la Transat Café L'Or en Martinique. Nous suivons particulièrement dans ce 13-14 une jeune navigatrice que vous connaissez très certainement tous les deux. C'est Violette d'Orange qui est à bord de Samantha Davis sur un des bateaux qui a fait le Vendée Globe l'an dernier. Cœur, toutes les deux à l'avant de la flotte, et Violette d'Orange nous a envoyé ce message, son souvenir à elle, son Atlantique à elle.
Hello France Inter, c'est Violette d'Orange. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mes souvenirs de la toute première Transat. À 18 ans, je suis partie de La Rochelle, seule sur mon petit bateau de 6,50 m, appelé Coin Coin. Il y a un moment qui m'a beaucoup marquée, c'était le dernier soir dans les Alizés. Je me suis installée tout à l'avant de mon bateau, la mer était calme, le vent était chaud, il y avait un ciel orangé magnifique et j'étais entourée des poissons volants. J'étais toute seule, là, fière, heureuse, j'avais réussi à aller de l'autre côté. Alors je me suis fait la promesse de continuer la course au large et d'aller encore plus loin. Bon bah c'est ce que j'ai fait. Les années suivantes j'ai enchaîné sur le circuit pro, j'ai fait des transats sur des bateaux de plus en plus grands. Et cette fois-ci, c'est ma première sur un bateau volant. Alors vous devez l'entendre derrière moi, je bats mon record de vitesse. C'est hyper impressionnant. Heureusement, je suis bien accompagnée d'une navigatrice exceptionnelle, Sam Davis. Alors voilà, même si ce trajet, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est à chaque fois un nouveau challenge et je me sens chanceuse de pouvoir ressentir la liberté du large.
Elle est chanceuse d'être au large en ce moment. Emmanuel de Fontaigneux, dans cet ouvrage que vous avez coordonné, Atlantique, le grand livre de l'océan, il y a ces grands navigateurs, mais il y a aussi l'histoire de l'Atlantique qui a pu relier les hommes, qui a pu les séparer, l'histoire de la traite, par exemple, l'île de Gorée, l'histoire du Cap-Vert aussi sont présentes dans cet ouvrage.
Oui, c'est une histoire extrêmement intéressante parce que la mer Océane, comme on l'appelait autrefois, a toujours existé dans la mentalité occidentale. Mais avant Christophe Colomb, personne n'était allé de l'autre côté. Et ce qui est très amusant, au fond, c'est que d'un seul coup, Christophe Colomb décide de partir vers l'ouest. Lui, il veut partir en Asie, ce qu'il appelle les Indes. Et bing, il rebondit sur quelque chose qui se révélera être le continent américain. Donc on peut suivre, à partir de cette découverte, le dessin du bord ouest de l'océan sur les cartes. Et c'est d'ailleurs par les cartes d'autrefois qu'on rentre dans ce livre.
Jean-Claude nous appelle du département de l'Aisne, qui n'est pas vraiment un département de notre littoral. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour, merci de m'appeler.
Et pourtant, vous avez construit un petit catamaran.
Justement dans l'Aisne.
Eh oui.
Je suis revenu habiter un minuscule catamaran à voile de jonc. Et c'est maintenant le cinquantenaire. C'est même le cinquantenaire à deux titres. Premier titre, une traversée de l'Atlantique sur ce minuscule bateau. Et deuxième titre, nous sommes arrivés à Belém où démarre aujourd'hui la COP.
Pourquoi vous avez fait ça, Jean-Claude ?
Oh, ce serait trop long à raconter en quelques minutes. Disons que C'était à la fois un rêve et un défi de sportif. Mais à l'époque, la course au large n'était pas connue, n'était pas médiatisée. Mmh. J'ai traversé avec un sextant en plastique et une montre de première communion.
Donc on peut traverser l'Atlantique comme ça, c'est bien de le rappeler. Merci Jean-Claude de nous avoir fait partager votre passion. On le voit, la course au large, elle prend aujourd'hui beaucoup de place dans l'imaginaire. Elle fait peut-être oublier la pêche, le commerce, qui ont aussi marqué cette histoire. J'avais une dernière question pour vous, c'est un livre évidemment sur l'Atlantique. Quelles en sont les frontières ? Éric Orsenna, grand écrivain, nous parle de l'île de Bréa, mais là on est dans la Manche, il y a vos dessins, Marie Détré, de Dinard et de Saint-Malo. Il y a un texte de Kenneth White qui cite l'île Millau en face de Trébordin. Tout ça, c'est dans la Manche. Quelles sont les limites? Est-ce que vous êtes posé cette question?
Il n'y a pas de limite. Voilà. Pas de limite.
Oui, d'ailleurs, Éric Orsenna, quand on lui pose la question, il vous dit non, moi je ne suis pas d'Atlantique, je suis en effet de la Manche. Mais il estime, avec tous les scientifiques estiment aussi de manière générale qu'il y a un océan global et des mers bordières ou des bassins océaniques plus nombreux.
Vous partagez, Marie Détré?
Parfaitement.
Ouais.
Surtout que j'ai pas mal navigué, donc c'est vrai que lorsqu'on se retrouve sur l'eau, on voit les choses différemment, parce qu'on a souvent ce regard vu de la terre vers la mer, mais lorsqu'on est porté par les flots, c'est un océan global.
Vos dessins, vos œuvres, de magnifiques photos également, et puis les textes que vous avez coordonnés, j'ai cité Éric Orsenna, mais bien d'autres, à retrouver dans cet ouvrage, Atlantique, le grand livre de l'océan. C'est aux éditions Sud-Ouest, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est le quatrième épisode de notre feuilleton avec Aurélie Sylvestre. Elle a perdu son compagnon il y a 10 ans au Bataclan. À l'époque, ils avaient un petit garçon de 3 ans. Ils attendaient un deuxième enfant qui est né ensuite en mars 2016. Depuis, Aurélie témoigne. Aujourd'hui, nous la suivons à Melun où elle rencontre des jeunes suivis par la PJJ. 4 ados de 15 à 17 ans suivis après des faits de tentatives de cambriolage, viol, mais aussi suspicion d'apologie de terrorisme.
Donc moi, je m'appelle Aurélie et il y a 10 ans, j'ai donc été une victime indirecte des attentats. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous en avez entendu parler? Parce que vous aviez quoi? Il y a 10 ans, vous aviez 7 ans, quoi. Ouais, ok. Donc je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? C'est plus simple de se parler. Ouais, super.
Nous ici, nous quatre, j'ai envie de dire, on n'est pas des anges. On a fait des choses. Mais se retrouver face à une victime du terrorisme, ça fait quelque chose. En tout cas, en moi, ça fait mal. En imaginant le petit de 3 ans apprendre son père est mort, c'est dur.
Moi, je connaissais déjà un peu, comme ça avait beaucoup tourné, mais juste en mode le voir, que quelqu'un te raconte ça directement en face de toi, c'est pas la même chose.
Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'en vous rencontrant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que le terrorisme ne fait pas que des victimes mortes, mais aussi des victimes vivantes.
Bah oui, il y a ceux qui sont sur place, il y a les blessés psychiques, la famille. C'est une onde de choc qui est très grande, quoi.
Tu n'as jamais eu cette envie de vengeance, mais pas vengeance normale, juste vengeance meurtrière, vous dire qu'ils méritent la même chose qu'ils ont fait à mon mari?
Ben non. Il y a des peines de prison qui ont été prononcées. Ça m'a donné aucun réconfort. Je suis pas contente. S'il devait y avoir une réparation, ce serait de me ramener Mathieu. Mais c'est pas possible. Ce qui pourrait me faire du bien, moi, c'est de savoir que ces gars-là recommenceront pas.
Moi, je pense que si ça devait m'arriver à moi, c'est que au moins au début, j'aurais aimé qu'ils croupissent, parce qu'il y a la même chose qu'ils ont fait aux victimes. Même s'ils ont juste aidé les autres.
C'est important pourquoi, pour toi?
Ce serait juste au début, dans un moment de colère.
Et après, alors?
Et après, je pense, comme vous, maintenant vous n'êtes plus en colère. Je pense que ça serait tassé.
Moi, le premier jour, j'arrive au procès. Il y a donc 14 accusés. Et là, moi, j'ai peur et je rentre chez moi et je suis très angoissée. Et puis je reviens, et puis je reviens, et puis je reviens, et puis je reviens. Et puis en fait, passer 10 mois... avec des accusés, c'est aussi passer 10 mois avec des gens, en fait. Ça veut dire que pendant un procès, on les entend parler, On les entend avoir faim, on les entend avoir soif, on les voit avoir des coups de pompe, on les voit rire quand c'est drôle, on les voit être émus parce que c'est aussi émouvant. On voit leur famille. Et donc, petit à petit, en fait, l'idée qu'on se fait d'un monstre, en fait, on se dit, bah, en fait, pour faire ça, il faut être un monstre. Et bah, en fait, non. C'est-à-dire qu'on est que des êtres humains. Et moi, ce truc-là, de me dire, bah, non, en fait, c'est pas si simple, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas rien pour moi de venir vous raconter cette histoire. Ça compte, en fait. Ouais.
Pourquoi discuter avec quelqu'un qui t'a fait du mal? En plus, c'est pas n'importe quel mal.
Je comprends ton point, hein, et je l'entends, et je le respecte beaucoup. Mais moi, je suis capable d'aller en prison rencontrer voilà, des gens qui ont fait des choses terribles, en fait. Au contraire, je veux dire, on est les uns contre les autres aussi parce qu'on discute plus, en fait, je crois.
C'est Charlotte Piret qui a rencontré Aurélie Sylvestre et nous l'écouterons à nouveau demain et nous le ferons en direct du restaurant La Belle Équipe avec nos invités. Nous serons dans le 11e arrondissement de Paris pour une émission spéciale.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h49, la France à table avec Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, c'est la saison de la récolte des olives en Provence et ce fruit commence à intéresser des agriculteurs un peu partout en France. Pour quelles raisons ?
Parce que, Jérôme, dans les zones agricoles en crise, certains cultivateurs imaginent que l'huile d'olive va les sauver des tourments dans lesquels ils sont plongés. Sauf que si on chante et on danse au pays des cigales, rien ne présage que la fête sera aussi belle dans des régions moins ensoleillées.
Mais on pense que le changement climatique va tout bouleverser.
Sans doute, mais ce chamboulement ne s'opérera pas du jour au lendemain. Or, les attentes sont immenses et urgentes. Yannick Mamondé conseille et accompagne les agriculteurs désireux de planter des oliviers. Il est submergé de demandes venues de céréaliers et surtout de viticulteurs dévastés par l'arrachage de leur culture en Gironde et bientôt dans la région de Cognac. Il y a 10 ans, il a quitté sa vigne dans l'Entre-deux-Mers. Il sentait bien que le vin ne ferait plus vivre longtemps toute la famille. Devenu consultant agricole au Maroc, il s'est passionné pour l'oléiculture. Depuis, il veut convaincre qu'une filière industrielle de l'huile d'olive peut naître en France, d'autant que notre consommation a doublé en 30 ans pour atteindre 100 000 tonnes.
Et le potentiel est important ?
Oui, et il est censé tenter d'acclimater l'olive plus au nord quand on expérimente au sud des cultures comme la pistache, le coton ou l'avocat. Yannick Mamondé reste quand même prudent. Il faudra du temps pour voir les campagnes françaises se couvrir de milliers d'oliviers. Et surtout, une question essentielle se pose. Pouvons-nous demain devenir un acteur mondial de l'huile d'olive ? Nous sommes un nain, assène Yves Guillaumin, directeur de France Olive, rassemblant les professionnels du secteur. Face aux Espagnols qui charrient 1,5 million de tonnes chaque année, nous en produisons 5 000. Qu'elle soit de Nyons ou des Baux de Provence, notre huile affiche sa qualité, sa typicité et, osons le dire, un prix stratosphérique comparé à la cotation mondiale dictée à Jaén, en Andalousie. Si elle devient un produit industriel, donc moins cher, elle devra se présenter sans aspérité pour plaire à tous les palais, pourra-t-elle alors jouer des coudes face aux géants du secteur déjà très structurés ?
Il faut quand même dire que la culture de l'olivier revêt une certaine noblesse.
Oui, et certains en savent en parler de façon magnifique. C'est le cas d'Alexis Munoz, créateur d'huile d'exception prisée des tables gastronomiques. Son projet, baptisé Nectar, vise à planter une oliveraie de 1000 hectares en agroforesterie près de Carcassonne. « Je veux redonner la vie à la terre », nous dit-il. Dans cette société de l'éphémère, l'olivier voit défiler le temps. Il est un modèle de constance, de durabilité. Il a sans doute de l'avenir en France, mais enfin, ce n'est pas un Eldorado.
Et pour nous surprendre, Marie-Luce, vous avez choisi aujourd'hui une recette, mais une recette sucrée.
Eh oui, celle de ces biscuits provençaux en forme de barque, les navettes à la fleur d'oranger et à l'huile d'olive. Battez en mousse 2 œufs et 200 g de sucre. Ajoutez une demi-cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, le zeste d'une orange, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin, progressivement, 500 g de farine afin d'obtenir une belle boule. Vous la coupez en deux pour composer deux boudins et attendez une heure. Débitez ces pâtons en 30 morceaux identiques que vous roulez et pincez aux extrémités. posez le tout sur une plaque de cuisson, fendez chaque biscuit au centre avec la pointe d'un couteau et badigeonnez de lait. Faites cuire 20 minutes dans un four à 180 degrés. Si vous êtes à Marseille, goûtez celle des Acoules aux portes du quartier du Panier. Elles sont fameuses.
Et je confirme. Merci Marie-Luce Ribaud de C'est la France à C'est une chanson. C'est un grand athlète que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'appelle Jérémy Nicolin.
Il a 34 ans. Il a été plusieurs fois champion de France du lancer du javelot il y a quelques années. Et il s'est désormais reconverti dans les sports extrêmes, en premier lieu dans le cliff jump, un sport qui consiste à faire des sauts dans l'eau en s'élançant de très haut. Jérémy Nicolin saute des ponts. Il saute également et surtout des falaises, et ce depuis qu'il est enfant.
Mon père m'a emmené dans un canyon qui est à 10 minutes à pied de la maison, dans le Jura. Donc c'est mes premiers souvenirs de cliff jump, c'est les sauts dans ce petit canyon où il fallait viser dans des trous d'eau de 3 à 5 mètres de large. Et j'ai tout de suite accroché, j'en ai toujours fait en fait depuis tout petit. Tous les printemps étaient, on allait sauter dans le canyon et on s'exportait de plus en plus loin.
Qu'est-ce qui est le plus dangereux dans ce sport-là ?
Bah déjà, le saut en lui-même, plus tu vas haut, plus tu arrives vite dans l'eau, donc plus tu as de chances de te faire mal à l'impact. Les figures, si elles ne sont pas maîtrisées, que tu n'arrives pas droit, vous imaginez à plat, déjà de 1 mètre, ça fait mal. Donc à plus de 30 mètres, ça peut être catastrophique. Et je pense qu'il y a aussi l'effet de groupe, de vouloir impressionner, de vouloir trop en faire. Il faut arriver à être pragmatique et bien se connaître et rester dans ce qu'on sait faire.
Votre record, c'était à quel endroit ?
Mon record, c'est à Cascade Chaudron, à La Réunion, un spot interdit d'ailleurs, et c'est à 47 mètres de haut. Donc là, on est vraiment dans un monde où ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Même en exécutant parfaitement le saut, on n'est pas à l'abri de se blesser à l'impact tellement on arrive vite dans l'eau.
C'est donc Lenny Kravitz que Jérémy Nicolin a souhaité que l'on écoute, Frédéric.
Avec la chanson Fly Away, sortie en 1998.
Quand je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je mets tout le temps de musique. J'essaye de prendre des musiques qui me donnent des émotions quand je les écoute et sur lesquelles j'arrive à imaginer mettre une vidéo d'un saut. Et Fly Away de Lenny Kravitz, ça en fait partie. Et finalement, cette chanson Fly Away, c'est bah, déjà voler, s'en aller. Donc déjà, dans tous les sports que je pratique aujourd'hui, il y a cette notion de vol, que ce soit en cliff jumping. Alors c'est plus une chute, mais finalement, pour quelques secondes, je vole. Je fais du parapente, du speed flying. Donc là, je vole directement. Le but en parapente, c'est d'aller prendre des thermiques et de rester en l'air le plus longtemps possible. Et le speed flying, c'est pareil, mais là, le but, c'est de descendre le plus vite possible, proche du sol, avec des petites voiles. Et surtout, c'est aussi un message de liberté, cette chanson. I want to fly away, I want to get away. Voilà, il a envie de s'en aller, il a envie de pouvoir aller où il veut, partout. Il parle de la Voie lactée, de Mars. Donc, moi, ce sport, le cliff jump et tous ces sports extrêmes, bah déjà, ça me fait voyager. Et c'est aussi un moyen de gagner ma vie aujourd'hui. Et gagner sa vie, c'est aussi gagner en liberté. Donc, j'aime bien ouais, ce message de liberté dans cette chanson.
Votre vie, vous la gagnez en faisant ces vidéos ?
Exactement.
Est-ce que vous vous rappelez du saut qu'accompagnait cette chanson de Lenny Kravitz dans votre vidéo ?
Ouais, c'est un saut dans le Jura, vers le lac de Vouglans, donc c'est là où j'ai fait mes armes. Et c'était un saut à 29 mètres où j'avais une petite course d'élan et ensuite je me lançais comme ça avec un bon temps de chute. Et en fait, ce que j'aimais bien avec la chanson, c'est que je crois que c'est sur le deuxième refrain, il dit « oh 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 yeah » et il y a un petit mouvement de roulement de tambour comme ça et ça accrochait bien sur la course d'élan, les pas de course.
Et après, plouf.
Après, plouf. Et c'est un très bon souvenir. Comme tous mes sauts. Donc ouais, c'est une chanson que j'écoute souvent parce qu'elle donne de l'énergie, elle donne un smile, elle donne envie d'être libre, de voyager, de s'épanouir, je pense.
De voler.
De voler.
Fly Away, Lenny Kravitz. C'était donc, Frédéric, le choix de Jérémy Nicolin.
Jérémy Nicolin qui rêve aujourd'hui de devenir champion du monde de cliff jump. Son objectif, c'est un saut de 60 mètres. Il espère pouvoir le faire l'an prochain.
68 mètres, c'est la hauteur de la tour centrale de la Maison de la Radio et de la Musique, pour vous donner une idée à peu près de la hauteur.
Et il n'y a pas d'eau en dessous.
Non, il ne faut pas le faire, évidemment.
On va lui déconseiller de venir battre ce record ici. N'essayez pas non plus.
Merci Frédéric Pommier. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan à suivre.